Eh bien, que Dieu soit béni au milieu de nous, que sa parole soit reçue et honorée, qu'elle construise nos vies, que nous soyons réjouis de cette parole. J'étais inspiré à prendre un passage dans le livre des Proverbes, au chapitre 24, les versets 1 à 7. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas d'être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Je pourrais poursuivre, mais je m'arrêterai à ce stade du chapitre, où il s'agit de bâtir avec la sagesse et de combattre avec le conseil. Ce passage parle de réussir sa vie, mais pas de façon personnelle, en élevant une maison. La maison dans l'Écriture, ce n'est pas le bâtiment, mais c'est le lieu de vie, de développement de la famille et même d'une communauté identifiable, bien à part des autres. Rien n'est plus parlant à ce sujet que la confrontation de David avec son Seigneur par prophète interposé, lorsque, vers la fin de sa vie, il veut bâtir une maison pour Dieu. Trouvons cet épisode dans le livre de Samuel, au chapitre 7, le deuxième, mais aussi parallèlement dans 1 Chronique 17, c'est là que je vais vous le lire. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan, le prophète, « Voici, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de l'Alliance de l'Éternel est sous une tente. » Nathan répondit à Dieu, à David, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. » La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan, « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à ce jour. Mais j'ai été de tente en tente, de demeure en demeure. Partout où j'ai marché avec tout Israël, ai-je dit un mot à quelqu'un des juges d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple? Ai-je dit, pourquoi ne bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris en pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef de mon peuple d'Israël. J'étais avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma grâce comme je le retirerai à ceux qui t'ont précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision, et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit « Qui suis-je, Éternel Dieu, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ?» C'est peu de choses à tes yeux. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes porter les regards sur moi à la manière des hommes, toi qui es élevé, Éternel Dieu. Que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur ? Tu connais ton serviteur. Et ô Éternel, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi, il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme le peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte ? Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. Qu'elle subsiste, afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise « L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël » et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. La maison de David. Vous voyez le renversement, David veut bâtir une maison pour Dieu, et Dieu lui dit, c'est moi qui vais te bâtir une maison. Et cette maison-là, eh bien, elle sera la maison de l'Éternel. Et ton fils bâtira la maison, qui est le lieu de ma résidence. C'est donc Dieu d'abord qui bâtit la maison. D'ailleurs, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Dieu bâtit une maison et il nous demande d'entrer dans son projet. Et il veut bien nous choisir pour nous donner aussi à nous une maison. Dieu ne veut pas de la maison de cèdre par la main de David, mais il lui annonce que lui, Dieu, bâtira une maison à son roi à travers sa postérité. Et il le fait encore pour ceux qu'il choisit dans ce monde, pour le glorifier, pour manifester son œuvre, pour manifester sa grâce au sein des nations. Chacun est appelé à bâtir sa propre maison en comptant sur le Seigneur qui, plus globalement, bâtit sa maison à lui, dans laquelle il est glorifié. Alors le passage pose d'abord comme hypothèse que l'homme concerné pourrait tourner son cœur vers les méchants, être attiré vers eux, puisque ne porte pas envie aux méchants, ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. On en revient ici à ce qui inaugure l'enseignement des proverbes. Les paroles d'un père et d'une mère à un fils encore innocent. Au chapitre 1, après une introduction, le père dit à son fils, « Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de buts bien précieux, nous remplirons de butin nos maisons, tu auras ta part avec nous. » Le but est le même, d'avoir des maisons remplies de biens précieux. Mais le chemin pris pour y arriver est totalement contraire à la loi de Dieu et au respect du prochain. Il s'agit de verser le sang, de tendre des pièges à celui qui se repose sur son innocence. Tant qu'à parler de méchanceté, il vaut mieux évoquer sa forme extrême, ce que les parents disent tout de suite au fils. C'est à ça que vont te conduire les méchants. On voudrait pouvoir nuancer, mais en définitive, le mal aboutit bien au meurtre, à négation de la vie d'autrui, à négation de l'œuvre de Dieu en l'autre. C'est à ça que conduit le mal, à la mort de l'autre, avant notre propre mort. Alors l'affaire semble entendue, puisque dès le jeune âge, le croyant, le fils, a reçu cette instruction. Et pourtant, les proverbes persistent et font comprendre que nous ne sommes jamais trop totalement tranquilles avec la fascination qu'exercent les méchants. Jeunes ou adultes, nous sommes exposés par leur pouvoir d'attraction. Verset 19, d'ailleurs, du même chapitre 24, montre à quel point nous pouvons être ambigus dans notre relation aux méchants, puisque il est dit, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux insensés. Il y a deux réactions contradictoires. S'irriter contre ceux qui font le mal et pourtant leur porter envie. Et pourquoi ? Eh bien parce que dans leur méchanceté, les méchants ont l'apparence de la réussite et qu'ils peuvent à certains moments réellement briller au sein de ce monde. Pourtant, toutes leurs pensées sont iniquité, toutes leurs pensées sont tournées contre Dieu. Mais ils réussissent. Bien des passages analysent la difficulté qu'a le croyant, le fidèle, par rapport à la réussite des méchants. Donc, la première chose sur laquelle nous avons, si nous voulons bâtir la maison selon Dieu, c'est à détourner nos yeux des méchants et de leur réussite. Ne pas nous laisser entraîner d'une manière ou d'une autre à les prendre comme référence. Mais enfin, la sagesse peut l'emporter et elle l'emporte sur les travers de nos âmes et une maison s'élève. Et à ce moment-là, tout devient beau, tout devient efficace et puissant. L'espace et le temps laissent la place à une émanation du royaume de Dieu. La sagesse, l'intelligence, la science sont à l'œuvre. Et donc, par la sagesse, une maison s'élève, par l'intelligence, elle s'affermit, par la science, les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Amen. D'abord, la structure, l'architecture. La maison s'élève, elle s'affermit, elle prend sa place, elle occupe l'espace. Elle est identifiable, remarquée. Elle ne demeure pas invisible. Il est évident qu'une maison s'élève au regard de tous. Cette maison, donc, elle s'affermit, elle se construit bien. Il y a une cohérence, une force qui anime le développement de cette maison. Et à l'intérieur, les biens de ce monde viennent la remplir par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Elle accueille ce que le monde produit de meilleur. La vie y est agréable au sein de cette maison. Les biens de ce monde, mais plutôt dans le contexte, les biens du royaume. Les biens du royaume viennent remplir la maison. La maison s'est édifiée, la maison est belle de l'extérieur, mais la maison est belle aussi à l'intérieur. Voilà la maison que Dieu veut pour l'homme sage et la femme, puisque le chapitre 14 commence ainsi, « La femme sage bâtit sa maison ». Et nous voyons au proverbe 31 que l'épouse vertueuse eh bien, est à l'œuvre justement pour donner à sa maison tous les revêtements les plus précieux, etc. Bon, la femme insensée, malheureusement, la renverse de ses propres mains. Donc, de la maison, nous revenons à l'homme dont elle relève. Il est dit, plein de force et sa vigueur est affermie. Un homme sage et plein de force est celui qui a de la science affermie sa vigueur. Il en faut de la force, il en faut de la vigueur pour élever et affermir une maison, au plan moral surtout. Mais aucune maison ne jouit d'un parfait environnement de paix. La guerre n'est jamais loin. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. C'est lié directement. L'homme sage, plein de force, qui a la science qui affermit sa vigueur, fera la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La guerre n'est jamais loin. Le monde est hostile. Hostile à Dieu et hostile à ceux qui bâtissent avec Dieu. Depuis le voisinage jusqu'à des entités lointaines, les attaques peuvent survenir. Et elles surviennent. La force et la vigueur sont alors déployées à des fins de guerre. Il ne s'agit plus maintenant de bâtir la maison, il s'agit de la protéger, de la garder. Et ça ne peut pas se faire autrement qu'en combattant, que par la guerre, ce que les nations font naturellement. Mais sur le plan moral, sur le plan spirituel, c'est ainsi également. Il y a une guerre contre le sage qui bâtit sa maison. Et il doit pouvoir combattre avec vigueur, avec force, contre ceux qui veulent détruire sa maison. L'homme sage qui a bâti sa maison par l'intelligence, qui l'a remplie de biens précieux par la science, sera aussi capable de mobiliser son énergie pour combattre et repousser l'ennemi. C'est une autre dimension. Mais il n'est pas seul. Il s'entoure de conseillers. Il va vers eux. C'est une vérité qui est répétée plusieurs fois dans les proverbes. Donc ici, tu feras la guerre avec prudence et le salut et dans le grand nombre des conseillers. Au chapitre 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Au chapitre 15, verset 22. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Et puis, au chapitre 20, verset 18, les projets s'affermissent par le conseil, fais la guerre avec prudence. Il ne s'agit pas de se lancer dans une défense tous azimuts et avec les forces qui nous viennent comme cela. Il faut également recevoir le conseil, être dans la sagesse pour faire la guerre, pour repousser l'ennemi. Alors, je veux faire une aparté ici et revenir sur la période Covid. Parce que, immédiatement, en lisant ce passage, c'est ce qui m'est revenu à l'esprit à propos du mot vigueur. Vigueur. En effet, lors du confinement, nous avons connu ce que j'appellerais un affaissement d'énergie. Tout à coup, plus moyen le matin de mobiliser notre énergie pour sortir, nous confronter au transport, aux relations tendues entre usagers de la route ou entre collègues. La vie, dans ces aspects-là, nous échappait. C'est comme lorsqu'il y a une éclipse solaire totale. Tout à coup, l'énergie s'absente. Et nous réalisons qu'en fait, notre énergie est liée à l'énergie que le soleil nous renvoie, en fait, nous donne. C'est un vide qui s'installe dans notre corps, littéralement, presque physiquement, et dans notre âme. Et ces moments-là sont très précieux, parce que se pose la question, à quoi tient l'énergie que nous déployons au quotidien ? Quels en sont les ressorts ? Sur quel vis-à-vis nous appuyons-nous pour bâtir notre vie ? Si les commandements de Dieu sont notre vis-à-vis, s'ils sont devant nos yeux et la préoccupation de nos cœurs, nous bâtirons avec sagesse pour la postérité, pour ce qui demeure. Mais si ce sont les hommes avec leur folie, qui sont devant nos yeux, qui sont notre préoccupation, nous allons bâtir nous aussi selon leur folie, combattre selon leur folie, en livrant un combat inégal avec leur folie pour arriver finalement à la ruine. Je crois que les périodes d'affaissement d'énergie, d'abattement, devraient nous contraindre à penser à ce qui mobilise notre énergie au quotidien. Ici, le passage que j'ai lu se termine par celui qui est insensé et qui n'ouvrira pas, la sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Ceux qui sont sages prennent la parole à la porte. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. La porte, c'est celle de la ville, là où se réunissaient les anciens pour juger les affaires. Il y a plusieurs allusions à cela dans l'Écriture. Je prends simplement Proverbe encore à chapitre 31, le verset 23. Au sujet de cette femme vertueuse, qui justement fait des couvertures, des vêtements de fin lin et de pourpre, etc., pour sa maison. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens de la ville. Voilà, nous avons là l'explication. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte dans le conseil des anciens. Alors je dirais, ne vous laissez pas disqualifier à participer au conseil qui va vous faire triompher, qui va faire triompher la paix. Soyez sages selon Dieu. Et là, on peut revenir sur ce passage des Chroniques, chapitre 17, je relis les versets 9 à 14. Puisqu'il est bien question aussi de guerre. Et là, la guerre a précédé, elle a toujours été dans le peuple, dans le parcours du peuple d'Israël. La guerre a précédé la construction de la maison de David et de la maison de Dieu. Mais voici ce que dit le Seigneur, j'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le détruisent plus comme auparavant. Et cela s'accomplira véritablement lorsqu'Israël sera converti. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis. Et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison. Et j'affermirai pour toujours son trône. Bien sûr que cette promesse amène au fils de David qui bâtit la maison qui dure éternellement, qui ne peut pas être détruite, Jésus-Christ. C'est lui qui a été le descendant de David, qui permet à la maison de David de subsister et plus largement d'intégrer en son sein tous les peuples de la terre, afin qu'ils puissent glorifier le Seigneur. Alors, si le Seigneur nous bâtit des maisons à nous, ça ne peut être que dans cette perspective-là, comme fruit de ce qu'il a accompli en donnant Jésus-Christ et en bâtissant sa maison dans le monde, qui est l'Église. Le Seigneur, le Fils de Dieu, a été fidèle sur sa maison. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, et sa maison, c'est nous. Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous persistions jusqu'à la fin dans l'assurance que nous avions au commencement, dit l'apôtre. Nous sommes la maison de Dieu. Alors, qu'est-ce que les maisons que le Seigneur nous donne quand même de bâtir, nos propres maisons, eh bien qu'elles puissent demeurer comme demeure la maison du Seigneur, bâtie sur le fondement de la sagesse de Dieu. Je sais que parmi nous, il y a des frères et sœurs qui nous ont rejoints et qui sont membres d'une grande famille dans laquelle le Seigneur a suscité de nombreux serviteurs de Dieu. Le Seigneur, au départ, a fait une œuvre et il a développé cette famille pour qu'elle continue à s'affermir et à glorifier son nom, à être employée pour le service du Seigneur sur cette terre. Oui, Dieu fait cela. Et l'apôtre donc nous invite à prendre notre part et à prendre garde à la manière dont nous bâtissons la maison sur le fondement. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Verset 10, pardon. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que nous puissions bâtir avec sagesse sur le fondement posé par les apôtres, avec toute la grâce, toute l'intelligence que donne le Seigneur à ceux qui se tournent vers lui, qui reçoivent ses commandements, qui recherchent dans les Écritures toute sa vérité. Et avec la source de toute sagesse qui nous est donnée, toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 5, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Les hommes bâtissent avec leur propre intelligence, mais ils ne comprennent pas l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, dans les Proverbes, là, un peu plus loin, chapitre 28, il est bien écrit que, verset 5, les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Et Paul dira dans ce chapitre 2, verset 15 de 1 Corinthiens, alors 14 et 15, l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. C'est en étant ces hommes, ces femmes spirituelles, proches de Dieu, dans la compréhension de ce que l'Esprit Saint nous accorde, que nous pourrons bâtir la maison et que nous pourrons faire la guerre avec sagesse. Continuer le combat selon la sagesse de Dieu pour aboutir à faire demeurer et nos maisons sur la terre et la maison du Seigneur, les faire demeurer face aux entreprises de l'ennemi. C'est ce que je demande au Seigneur de vous accorder à chacun pour vos propres maisons, de pouvoir être bâti vraiment dans la sagesse et dans la puissance avec la vigueur de Dieu, en ayant le Seigneur comme phare et comme source de cette énergie qui vous est donnée. Amen.